Je vais vous proposer un objet bien connu, le messianisme égale X, bien connu malgré ce X, et un traitement général de ce type d'objet. Je forme un faisceau complexe avec les trois brins ou les trois sources qui peuvent faire une théorie, qui peuvent contribuer à une théorie du messianisme. Théorie, c'est important, parce qu'un axiome fondamental de toute science, me semble-t-il, est que la science de l'expérience réside dans l'intimité de la science et non dans l'expérience. Ou plus précisément, commence avec l'expérience, mais comme dit Kant, n'en dérive pas toute. Évidemment, cet axiome avec ses conséquences pour définir le messianisme est lui-même interprétable dans les limites du problème plus général dont on aura un peu le temps de parler, mais très peu, le problème plus général de la complétude quantique, puisqu'il affiche un rapport futile négatif à l'expérience. Ces trois brins sont, premièrement, le judaïsme, inévitablement, que le Messie soit attendu ou venu, peu importe, dans le cadre d'une théorie du messianisme. Deuxièmement, le christianisme, je ne sais pas, je manipule ça mal, je ne sais pas à quelle distance.
Ne le manipulez pas.
D'accord, merci. Le christianisme qui appelle à son secours la philosophie grecque pour renouveler la notion reçue du messianisme. Troisièmement, enfin, c'est presque le plus important, ou celui qui va tenir le plus de place ici, un modèle théorique et non pas historique, un modèle purement théorique, tiré et beaucoup simplifié, je le reconnais, de la physique quantique. Capable de conjuguer ces deux états et de toute façon d'autres dualités que l'on va voir dans le cours de la conférence, en vue de produire un nouvel état du messianisme, transformé dans ses conditions quantiquement non judaïques et non chrétiennes. Le modèle quantique, je le dis tout de suite, additionne ces deux données historiques. Il fera plus qu'additionner ces données historiques. On verra qu'il y a des produits aussi en jeu dans le cours de la conférence. Il y a des sommes et des produits. Ces données historiques comme des variables, en quelque sorte, sans donner lieu à une simple réinterprétation philosophique du messianisme, mais à un saut, dit quantique, à un saut dans la messianité. Et la messianité ici, ça n'est pas tout à fait le concept général des messies ou des messianismes. C'est un concept qui va être acquis, on va le dire, par une procédure théorique quantique, la superposition. J'y viendrai. Je propose donc de considérer ni plus ni moins la théologie et la christologie conceptuelle ou aristotélicienne comme un stade classique, classique et en un sens dépassé, de la pensée et de renouveler en priorité le messianisme par l'introduction dans ses problèmes du noyau, certes simplifié, je le répète, parfois outrageusement simplifié, de la science physique la plus fondamentale, la théorie quantique comme moyen de modélisation. La théologie, comme science conceptuelle, quelle qu'elle soit, est contaminée par les préjugés ontologiques grecs, par la manière de penser grecque. La pensée judaïque elle-même a quelque mal à se faire entendre dès qu'elle veut passer par le moyen du grec, comme on le voit par les efforts contournés et quelque peu désespérés de Lévinas et même de Derrida. Je choisis donc une autre voie que celle de leur mélange, judaïsme et christianisme, que celle de leur mélange pour la voie, leur mélange déconstructif. Hein, comme disait Derrida, le juif grec et le grec juif, la voie de leur intrication quantique. Pas leur intrication, il y a une intrication déconstructive, évidemment, mais c'est une autre intrication que je vais choisir. Intrication qui va se faire, si je puis dire, l'expression est très ambitieuse, mais il faut la comprendre, qui va se faire en univers, et non plus entre deux points qui bordent la Méditerranée, grec et juif. Bref, il s'agit extérieurement de lier un motif d'extraction religieuse et une formalisation scientifique, dont j'avoue que je l'ai beaucoup simplifié, je le répète, comme si la quantique pouvait être étendue purement et simplement à ce qu'il est convenu d'appeler la religion. C'est donc une tentative, c'est plutôt une tentative de dresser un panorama cohérent de toute mon entreprise en tendant un fil entre ces deux extrémités qui sont l'homme et l'univers. Pas l'homme et l'être au monde et le monde, mais l'homme et l'univers. Le fil de la foi d'un non-croyant. Il faut prendre la formule avec certaines nuances se rapportant au non, hein, évidemment. La foi d'un non-croyant. Paradoxalement, mon projet n'est donc nullement de refaire une philosophie de la religion, et encore moins une philosophie de la mécanique quantique. Mes incompétences me les interdisent. Mais de dresser une théorie générale de l'homme comme jeté ou errant dans l'univers, excusez du peu, puisque celui-ci, l'univers, a maintenant acquis le statut d'objet scientifique sui generis, indépendant du monde, et qu'il est devenu urgent, par conséquent, de remodeler le fameux principe anthropique. N'étant ni croyant ni scientifique, risquant à chaque instant de heurter les uns et les autres par des inexactitudes dans l'usage des références scientifiques et religieuses, j'ai quand même décidé de monter dans cette galère, de prendre les devants, d'assumer pleinement mon rôle de philosophe, même si je m'avance avec crainte et tremblement, comme dirait Kierkegaard, dans ce qui est une conjecture osée et forgée avec des moyens empruntés à des spécialités pour lesquelles je n'ai aucun titre. Et le philosophe n'a aucun titre à faire valoir pour exposer son mythe personnel ou privé. Rien n'est ici à sa place attendue, puisque tout est messianique. Juste de la théorie quantique en vue d'éclaircir la foi. Je dresse un nouveau messianisme contre les religions instituées. Mon projet final est de mettre un anthropos messianique, enfin aux vertus messianiques, non philosophique, au centre de l'univers. Un anthropos qui pourrait bien être, excusez-moi, une femme. Il s'agit toujours de mon mythe personnel, bien entendu. Non, décidément, rien n'est à sa place, parce qu'une seule chose me fascine, c'est l'invention à marche forcée, le futur, une forme de futur si l'on veut, le messianisme mis à la portée des humains, de tous les humains, afin qu'ils deviennent ceux que j'appellerai plus tard, d'une manière probablement gnostique, enfin une combinaison bizarre, les idem sachants. Sachant savoir, sachant que, etc., ils savent le même. Alors idem, ça se rapporte le même là à certaines choses dans l'usage de la mécanique quantique. Donc, je ne suis pas ce que l'on appelle un croyant. Je n'ai que la foi d'un non-croyant que j'entends faire valoir. C'est peut-être un énoncé probable, une conjecture. Ceci dit, mon livre précédemment paru, Christofiction, est une sorte de préparation encore un peu exotérique à ce texte-ci. Alors, entrons dans le vif du sujet, maintenant. Je vais distinguer, en contrepoint de Kierkegaard, puisqu'on prononce comme cela Kierkegaard, trois stades du messianisme, en me rappelant de manière décalée les trois stades de l'existence qu'il a distingué. Par parenthèse, et pour rendre quand même justice aux rives de la Baltique, et sans renier évidemment notre mer à tous, la Méditerranée, il y a deux écoles de Copenhague, et pas une seule. On dit toujours l'école de Copenhague à propos de la mécanique quantique. Non, il y a deux écoles de Copenhague. Celle de Bohr, évidemment, mais aussi celle de Kierkegaard, qui a été une véritable école, peut-être moins étendue, et même ce n'est pas sûr, que celle de Bohr. Et la beauté du hasard, c'est qu'elle communique ces deux écoles de façon lointaine et hasardeuse, pas seulement par Bohr, c'est connu, les faits sont connus, par Bohr, étudiant Kierkegaard. L'acmé de cette communication décalée, c'est 1927. Parce que 1927, c'est l'année de être et temps, et c'est l'année du grand congrès Solvay sur la physique des électrons. À l'éthique kierkegaardienne, comme sceau de la philosophie hegelienne, dans l'existence, il faut commencer dans l'existence, correspondra le sceau de la philosophie dans ce que je vais appeler la messianité, pas le messianisme, mais la messianité, qui sera mon concept à moi, si je puis dire, de l'existence, qui est un concept plus universel que le messianisme, et qui s'obtient par la superposition, je vais y revenir, des phénomènes messianiques. Au stade du sérieux, au stade kierkegaardien, du sérieux moral, et j'ajoute conjugal, correspondra le sérieux scientifique, formel et expérimental de la quantique. Il y aura un deuxième stade qui sera celui-là, et qui lui mettra en jeu le quantum messianique plutôt que le factum. Premier stade, c'est celui du factum. Deuxième stade, c'est celui du quantum. Au troisième stade religieux, correspondra à la destination générique de l'homme comme messie pour l'univers. Alors, à vous de juger s'il s'agit d'un messianisme nordique, mais je n'irai certainement pas jusque-là. Encore que le thème, je l'avoue, j'ose à peine l'avouer, le thème du Graal exerce sur moi l'effet d'un puissant attracteur. Bon, on aurait pu citer Parsifal, peut-être, je ne sais pas. Premier stade, alors, passons les trois stades. Le factum comme messianité ou superposition, messianité ou superposition. C'est la préparation de la scène. On commence toujours dans la mécanique quantique par une préparation du système physique, c'est-à-dire des particules ou des corpuscules que l'on va examiner. Nous allons commencer par la préparation de la scène sur laquelle va apparaître le quantum, c'est-à-dire le Christ. Bon. Alors, en vertu de l'axiome fondamental de la science, il s'agit d'opérer un saut dans, c'est-à-dire vers et à l'intérieur, la représentation quantique du messianisme, soit de le préparer pour une expérience immanente et constituer en quelque sorte le factum, premier temps, c'est-à-dire le fait non empirique mais acquis d'une telle science. Pourtant, le messianisme n'est plus ici susceptible de traitement philosophique, de synthèse ou d'analyse historico-religieuse, et même transcendantale. Ce n'est pas un objet pour historien ou pour croyant, bien qu'il soit aussi cela, bien entendu. C'est ce qu'on appelle un système d'État représenté par des vecteurs complexes. Les états des différents messianismes sont représentés par des vecteurs complexes, conditionnés par i égale racine carrée de moins 1. Cette expérience est celle de la superposition des états du messianisme en ses diverses dualités. Par exemple, le messianisme ponctuel, ou bien étendu et délocalisé, ou bien encore, dans un autre registre, judaïque et chrétien. Commençons par distinguer dans la réalité empirique du messianisme des objets de deux sortes. Des messies individuels, localisés dans l'espace et le temps historique. Il y en a, ou des gens qui se sont présentés au carrefour des rues, en Judée, qui se sont présentés comme des messies. Bon. Et par ailleurs, des nappes ou des surfaces messianiques étalées de manière transhistorique et faiblement localisées. Judaïsme, christianisme, messianisme russe, peut-être islamiste, sans doute, New Age, etc. Et en un sens, alors plus étendu, déviant et très problématique, Il y a eu ce concept beaucoup plus récent du messianisme chez un auteur que je me suis donné la peine de lire et qui a eu une certaine influence, Eric Voegelin. Un concept très problématique du messianisme mélangé à la gnose moderne, selon le terrible trio de Marx, Kant et Hitler. Malgré leurs différences ontologiques, ces deux types d'objets sont plus ou moins mêlés et indiscernables. Ils forment une multiplicité historico-religieuse de débats acharnés et chaotiques, qui vont jusqu'à la guerre. D'où la difficulté à en faire la science, la théorie. On ne va pas traiter, nous, dialectiquement, ce qui serait une solution possible, on ne va pas traiter dialectiquement et comme opposé ces états ou ces dualités, mais vectoriellement, et même par des vecteurs dits complexes. Or, l'axiome fondamental exige que l'on sorte de l'empirique par un début de distinction à même la réalité. Il faut sortir de l'empirique par une distinction que l'on peut commencer à apercevoir dans la réalité empirique des messianismes. À partir de là, il faut amorcer la transition du messianisme à la messianité. C'est le ressort immanent du fameux saut quantique, de l'empiricité vers la théorie. Or, ce ressort a une forme bien précise, non philosophique. En face de la réalité des messianismes, il y a leur réel, il y a le réel du messianisme. En face de la réalité, il y a le réel. C'est-à-dire la messianité posée par la théorie, par une représentation vectorielle elle-même complexe. Autant le messianisme est partagé en sphères mêlées et rivales, autant la messianité doit être, par sa composition même, universelle et intriquée, tel un attribut d'où se conclura plus tard l'humanité des futurs messies. Donc les messianismes sont nos objets empiriques, nos phénomènes, si vous voulez, la messianité est notre objet réel comme contenu théorique des messianismes et qui doit expliquer leur survenue hasardeuse ou aléatoire. Ce modèle exigé pour accéder à la messianité est évidemment celui de l'onde ou celui de la vague s'étalant et se superposant à elle-même ou revenant sur elle-même, plutôt que le modèle beaucoup plus localisable du corpuscule. À côté des entités corpusculaires, messianiques, corpusculaires messianiques, il y a donc les plages étalées du messianisme qui ont tendance à occuper des surfaces historiques et à passer par des oscillations de baisse et d'élévation, de bosse et de creux. L'onde est dite superposable, la vague est dite superposable, parce que deux ondes d'origine différente ont la propriété d'additionner leur hauteur ou leurs oscillations en une seule, qui appartient, elle, au même système que les deux qui la constituent. Et qui sera cette nouvelle onde, cette somme des deux ondes, le véritable nouvel objet du formalisme théorique, la messianité. La messianité, c'est toujours ce troisième état, en quelque sorte, obtenu à partir des deux vagues qui se superposent. C'est un nouvel état indéterminé du messianisme qui résulte donc de l'addition de deux vagues, de deux vecteurs donnés, une potentialité qui est, comme on dit, les deux à la fois, encore que cette formule soit maladroite, et qui appartient au même système messianique. Donc, pour achever le saut quantique dans la théorie, il faut que la superposition elle-même, toujours empirique au départ, on dira, ah oui, il y a les vagues qui se superposent, et que l'on peut confondre avec une simple stratification, comme, je m'excuse, mon valeureux adversaire Badiou en a le secret, une stratification, celle, la superposition de nombres complexes ou une règle formelle, universellement applicable à tous les phénomènes, quels qu'ils soient, psychologiques, historiques, même religieux, comme ici. C'est faire de l'ondulatoire un factum de la raison, un modèle universel non empirique qui assigne la superposition à une sphère micro-quantique, maintenant. Parce que dans la messianité, tout est passé du macro-quantique, enfin, tout est passé virtuellement du macro-quantique, du macroscopique, au microscopique ou au microquantique. La superposition indéterminée mais additive est, et non pas ou, ne vaut pas immédiatement, si ce n'est exceptionnellement, des corpuscules qui d'eux-mêmes ne se superposent pas. Les corpuscules ne se superposent pas, justement. Parce qu'ils ont des dimensions arithmétiques. Mais la superposition vaut immédiatement des particules grâce aux ondes, et prioritairement des ondes elles-mêmes. C'est son amplitude. C'est l'amplitude obtenue par superposition. Conclusion, il va nous falloir chercher s'il y a des ondes ou des entités particulières ou micro-messianiques. Pas seulement les grands messies, mais les micro-messies. Mais attention, les micro-messies, on le dira, ce ne sont pas des petits messies. Ce sont des messies qui obéissent à d'autres lois que les macro-messies, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, pas seulement donc macro-messianiques comme le judaïsme ou le christianisme en proposent, que leur messie soit attendu, espéré, ou qu'il soit déjà venu, comme le christianisme le suppose, sans pouvoir s'empêcher d'espérer une seconde venue du Christ. Cette expansion, est fondamentale pour opérer le saut quantique, qui garantit l'amplitude du messianisme et la venue pour nous, théoriciens, dans l'immanence d'un champ messianique. La messianité ainsi acquise est certes indéterminée, mais elle représente l'immanence du messianisme, quel qu'il soit, et la possibilité de son traitement. Cet état où ce factum nous installe dans le plan messianique immanent, et ne nous fait pas entrer dans la philosophie, sans pourtant l'exclure. Nous n'entrons pas dans la philosophie, mais nous ne l'excluons pas non plus. Car la philosophie va traîner par là, si je puis dire. Mais la philosophie est toujours en bordure par là. Répétons-le, superposer, ce n'est pas synthétiser, ni d'ailleurs stratifier, selon des modèles philosophiques. La superposition n'est ni la tension d'une synthèse comme constitution d'un ensemble, ni l'appartenance analytique à un ensemble. Ce n'est pas une opération logique, mais algébrique, la résultante d'une addition de vecteurs. Elle oblige à refondre les notions prises d'un récit historique, les évangiles, d'un récit historique de la résurrection et de la crucifixion qui appartiennent à une ancienne manière de penser, empirico-philosophique ou macroscopique, fondée sur une confusion des types de réalité. Par exemple, micro-messie, c'est évident, ne va pas signifier, je l'ai déjà dit, petit messie, mais particule d'action messianique. La particule obéissant à d'autres lois que le corpuscule, l'onde, par exemple, n'est pas petite. Elle n'est jamais petite ou grande, l'onde. L'onde, une onde, une vague. Elle n'est jamais petite ou grande, sauf quand on se noie, je ne sais pas. L'onde occupe, tout ce qu'on peut dire, occupe toute la surface qui lui est impartie. C'est tout ce qu'on peut dire. Ce n'est donc pas un corpuscule qui, lui, occupe une place localisée et déterminée. Donc, ce n'est pas non plus ça ne va pas donner lieu à une micro-messianisme au sens où Deleuze et Foucault parlent de micro-politique. Je crois que micro-politique chez Deleuze et Foucault, enfin, je ne peux pas m'empêcher de me faire des adversaires, hein, c'est bien naturel. Je crois qu'ils pensent le micro-politique comme du macro-politique, mais réduit, très petit, à la suite de Nietzsche, les petits événements à la suite de Nietzsche. Mais il faut se méfier du petit et du grand, là. Ce sont des ordres différents. Bon, c'est une autre organisation du réel. Alors, deuxième stade. Le quantum, qu'on va appeler d'action messianique, les messies ont un effet, le quantum d'action messianique ou de matérialité messianique. Et ceci, je vais l'appeler ce quantum. Je livre la clé tout de suite, mais évitez de vous esclaffer immédiatement. Je vais appeler ça, entre guillemets, la foi en Christ, avec des tirets. Foi, tiret, en, tiret, Christ. Comme délimitation d'un christianisme universel. Pour rassurer certains parmi nous, je dirais que ce christianisme universel n'est pas chrétien. Enfin, il est non chrétien. Bon. Alors, y a-t-il des phénomènes micro-messianiques sur cette scène que l'on vient de dessiner ? Il nous faut un quantum délimitant l'action micro-messianique. Le quantum après le factum. La superposition a été introduite tout à l'heure depuis l'empirique, les phénomènes messianiques empiriques, par les vecteurs complexes, telle une montée au calvaire. Nous avons fait un saut quantique que je compare à la montée au calvaire. Comme le nouveau saut qui prépare à l'expérience messianique. Mais pourquoi cette allusion au calvaire ? La messianité est de toute façon première dans l'ordre des conditions de la connaissance quantique établie sur la base de phénomènes messianiques généraux ou empiriques. Nous avons planté là le décor avec... Le décor et les coulisses de la scène de la croix et de la résurrection avec ce qui va en dépendre, par exemple, le tombeau du Christ. Mais dans l'ordre de la réalité, et non plus de la représentation de cette réalité, dans l'ordre de la réalité qui ne se confond pas avec ses conditions générales, il manque encore le personnage principal. Un rôle auquel les brigands qui entourent le Christ ne peuvent prétendre. Qui donc représentera le quantum messianique d'action, ou mieux de matérialité messianique, la constante, qui représentera la constante destinée à remplacer dans les sciences religieuses et humaines la constante de Planck. Qui fera l'expérience d'être ou de devenir le micro-messie type ? Alors, vous savez que Planck a défini vers les années 1900, autour de ces années, un quantum d'action quantitativement mesurable qui délimite la sphère quantique dans la physique. Mais, en tant que philosophe, nous ne pouvons procéder ainsi et mesurer un quantum d'action messianique qui définirait les limites internes et minimales d'une théorie de la messianité. Nous n'avons pas de critères quantitativement certains de l'existence des micro-messies. Mais je crois que nous ne devons pas d'abord nous laisser intimider par la norme quantitative et sans appel, donc c'est les quantitatives sans appel, des mesures physiques élevées à l'état de constante. Ces constantes physiques ont été de toute façon très discutées et contestées sur le plan épistémologique, dans leurs principes, par des théoriciens de la physique, voire par des physiciens. Au nom d'un certain cercle vicieux établi probablement, enfin nécessaire pour établir ces constantes quantitatives physiques. Nous devons chercher une autre référence et un langage de substitution à la mesure quantitative. Je précise mesure quantitative parce que je parlerai d'une autre mesure, plus spécifiquement religieuse tout à l'heure. Un langage de substitution à la mesure quantitative qui soit de portée équivalente à celle du rayonnement du corps noir, qui était l'expérience cruciale faite avant Planck et par Planck lui-même. Et ici, rayonnement du corps noir, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux ténèbres qui envahissent le Golgotha et au travers desquelles rayonne le corps du Christ. Vous allez dire que j'abuse, que je force les textes, que j'abuse des images, mais on va voir que ce n'est que le début. Alors, il y a bien un quantum qualitatif d'action messianique qui permet de délimiter un champ immanent du messianisme, qui rend des micro-messies accessibles au formalisme, à un certain formalisme quantique. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de crainte et tremblement, de ma part, si je vous dis tout de go que ce quantum d'action messianique minimal, c'est évidemment le Christ, le Messie, que d'ailleurs je n'ose plus nommer Jésus. Il faut bien distinguer les deux, à mon avis. C'est le bloc indivisible de la foi en Christ. Donc, pas n'importe quelle foi ou quelle croyance, ce serait risible, et vous auriez raison de sortir de cette salle en éclatant de rire. Voilà qu'il nous refait le coup du christianisme. Non, je ne vous fais pas le coup du christianisme, en tout cas institutionnalisé, mais du Christ et de son retour, ici même, mais cette fois quantique, retour quantique, ce Christ-ci est le héros, si je puis dire, messianique d'un non-christianisme. Non, là aussi, bon. Faire attention à ce nom. Il est lui-même ce Christ habité par la foi d'un non-croyant. Et il y a suffisamment dans l'Évangile de phénomènes ou de paroles qui peuvent étayer le désespoir du Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la foi en Christ ? C'est la foi comme expérience de la superposition des deux aspects du Christ comme expérience physique et formelle. Formelle, c'est-à-dire algébrique. Expérience physique et algébrique. D'un Christ superposé, le Christ mort physiquement est ressuscité par la force, si je puis dire, de l'algèbre. Qui a dit que nous n'avions pas d'équivalent de la constante physique de Planck ? Nous en avons un. Avec le Christ, il s'agit simplement, si je puis dire, d'un corps cadavre, puis d'un corps vivant. Il s'agit de physique. Et il s'agit aussi d'une mesure scientifique, mais sous forme algébrique, pas sous forme arithmétique. La personne du Christ est la constante dans son aspect matériel, la superposition de sa mort et de sa résurrection étant son essence formelle et non quantitative. Le quantum est physique matériel, je dirais plutôt que matériel, d'ailleurs matériel, j'aime beaucoup ce terme, et formel algébrique. On n'isole donc plus le formel du physique. Ce corps du Christ va passer par ces deux propriétés que sont la mort et la vie, et ces deux propriétés formeront ensemble deux produits inversés qui ne seront pas semblables ou commutatifs. Je prends le risque d'assumer cette décision ou cette posture que certains d'entre vous jugeront hérétique, mais ce n'est pas déplaisant l'hérésie. Allons, ce n'est pas déplaisant. Hérétique aux yeux de la religion et de la science réunies. Le risque de penser, quoique non croyant, que le quantum n'est pas une donnée extérieure à la manière physique est distincte de la superposition qui serait, elle, un pur formalisme abstrait. Le quantum est une constante qui a déjà en elle-même, le quantum, c'est-à-dire le Christ, la foi en Christ plus exactement, a déjà en elle-même la structure d'une superposition et combine les deux aspects dans les divers stades qu'elle va traverser. La superposition comme principe universel qui se spécifie avec Christ, comme quantum d'une physique formelle, franchit, et ça c'est capital, en tout cas pour moi, c'est capital sur le plan théorique, franchit l'obstacle de l'objection de métaphore. Je n'ai pas, vous allez me dire que c'est une dénégation, mais je vais essayer d'en donner une certaine raison tout à l'heure. Je n'ai pas simplement transféré la superposition de la physique naturelle au religieux. Parce qu'elle vaut aussi des phénomènes religieux, la superposition, dans sa définition même. Je n'ai pas étendu métaphoriquement la quantique au messianisme. La messianique quantique n'est pas une métaphore de la physique parce que l'absence ici de l'arithmétique, mais non de l'algèbre, n'est pas la condamnation à la métaphore au sens littéraire et philosophique, mais à un discours allégé, si je puis dire, et algébrique, qui est celui du réel. Je n'ai pas rendu transcendante la physique, en parlant du corps du Christ, comme métaphysique. Je l'ai au contraire rendu complètement immanente, comme champ messianique. La Christologie classique, est ainsi sous-déterminée dans son aspect et ses fonctions de logos, si bien que le Christ ne peut plus apparaître, par exemple, sous la forme d'une notion philosophique, la notion de fondement. C'est la puissance de l'algèbre et de son universalité formelle qui permet au quantum christique ce dépassement de la métaphore. Physique et algèbre, leur croix peut-être, sont comme les coordonnées messianiques apportées par le Christ pour l'humanité future. Parole d'un non-croyant. Attention. Parole d'un non-croyant. Je parle de ce que je viens de dire. Il y a, je crois, les paroles d'un croyant, c'est de l'amener, non ? Dans la littérature, hein ? Paroles d'un croyant.
Revenez, oui.
Comment ?
Ça revient, Michel.
Paroles d'un croyant.
Qui est-ce ? Qui est ? L'amener ? L'amener, d'accord. Alors ici, paroles d'un non-croyant. Alors, il faut donc partiellement presque tout réorganiser dans la physique, dans la quantique, pardon, dans la quantique, si l'on ne veut plus la morceler par la physique, mais penser la complexité interne du nouveau quantum, car ce nouveau quantum, le Christ, est lui-même objet d'une expérience, lui-même objet d'une expérience, et pas seulement ce qui délimite l'expérience. Parce que le saut quantique est ici immanent. Le saut quantique est ici immanent. Nous semblons sauter des phénomènes empiriques vers la sphère quantique immanente, mais en réalité, nous sautons sur place, si je puis dire, en laissant de côté, abandonnant de côté les apparences phénoménales. Bon. Alors, je me suis demandé si cette solution n'était pas excessive, évidemment, parce que ça voudrait dire que le Christ, ici, c'est l'équivalent du quantum de Planck, et c'est Planck lui-même. Et c'est Planck lui-même. Parce que le quantum, il est individué ici. C'est pas une généralité. Alors, faut-il dire, aller jusqu'à dire Planck est le Christ de la physique? Bon. Alors, le Christ, revenons à des choses apparemment plus sérieuses. Le Christ est donc à la fois une somme et un produit de deux états. Il remplit les conditions générales de la messianité qu'il assume et les conditions d'être le quantum. Cette capacité à superposer le physique et l'algébrique et aussi la mort et la vie qui sera la mesure ou le critère de la teneur en messianité des messies, quels qu'ils soient. C'est donc là une tentative de nouvelle définition des conditions universelles du messianisme. On comprend en général celui-ci comme un événement de la réalité historico-mondaine, c'est dire que les églises n'ont guère le sens du messianisme de tout humain. Alors, le quantum d'action messianique fonde un formalisme qualitatif, ce n'est pas un objet, c'est plutôt un agir par les effets qu'il produit. La foi n'est ni une croyance, ni un sentiment immédiat, ici, pas ça. Elle n'est pas la croyance qui ne vaut que des représentations objectives et qui est dépourvue de l'universalité du nombre complexe. Impossible de bâtir la foi comme attente d'un Messie probable sur la représentation. Je m'enthousiasme. Alors, il faut que je refroidisse un peu la machine. Bon, impossible de bâtir la foi comme attente d'un Messie probable sur la représentation. Un état. Cela veut dire que la foi réside dans la foi, non dans tout ce qui l'empêche, la conditionne et la fait errer dans la croyance et son paganisme. On sait combien Schrödinger et Einstein se sont heurtés au paradoxe de l'application de la superposition à la macro-expérience. Einstein avec un baril de poudre, qui explose et qui a certains effets, et évidemment Schrödinger par un certain chat. Bon, sur lequel on reviendra quand même. Alors, ils se sont heurtés à ce paradoxe, qui normalement, ces paradoxes se dissolvent dans la messianité. Et à mon avis, leur échec, ou l'échec qu'ils vivent, est la sanction que, est une sanction que méritait la philosophie comme métaphysique. C'est des physiciens qui se laissaient séduire par une certaine métaphysique. Quelle drôle d'idée que celle de Schrödinger d'aller chercher un exemple de superposition chez un chat. Animal certes émouvant, comme vous le savez, mais messie tout juste égyptien, et quand même trop poilu à mon goût. Bien que la fourrure d'un chat soit un véritable champ électromagnétique, le réel, à la différence de la réalité, ne se caresse pas dans le sens du poil. Et tout compte fait, pour en finir avec ce genre d'objet, si je puis dire, je préfère encore l'Ève future, la femme électrique et électrisante de Villiers de l'Isle-Adam. L'Ève future. Faut lire l'Ève future. Alors, la foi, même dans sa définition chrétienne macroscopique, n'a jamais été que cela, l'unité posée, c'est toujours ce que j'ai entendu au catéchisme, moi, l'unité posée comme macroscopique du Christ mort et vivant. La croix, la résurrection, on ne peut pas séparer les deux. C'est ce type de foi et ce type d'événement par lequel la foi a commencé dans le monde, si je puis dire. Où elle restait, où cela restait une simple croyance. De mon point de vue, c'est une simple croyance, une fable, si vous voulez. Objet d'un récit historique, au mieux un dogme aux mains de l'ontologie grecque, de l'unité ou de l'identité. On ne savait pas comment rendre féconde cette identité et la soutirer aux préjugés. On ne savait pas de quel genre de synthèse ou d'addition il s'agissait dans l'unité ou l'identité de la mort et de la résurrection. Donc, ni de quel genre vectoriel de réalité, on ne savait que commenter indéfiniment et théologiquement ce récit. On avait d'ailleurs profité de cette ignorance pour éliminer les savants de la foi authentique. Elle a réservé cette foi authentique au simple, entendu de manière véritablement trop simpliste. Il aurait fallu introduire le minimum d'algèbre ou d'unités complexes pour pouvoir saisir la nature de cette superposition et l'enlever à ceux qui la démantelaient, à loisir, les obsédés de la passion du Christ et les enthousiastes de la foi vivante, ceux qui ne cessaient de mettre Christ au tombeau et ceux qui ne cessaient de l'en retirer. En son premier état, l'unité de la mort et de la vie ressuscitée du Messie est plutôt une fable. Celle tout empirique de Jésus plutôt que celle du Christ. Elle n'acquiert son universalité que comme événement micro-messianique représenté par des vecteurs d'État dans un espace abstrait, un Christ hilbertien, si vous voulez, si on peut dire. Allons plus loin. Il serait nécessaire de distinguer la foi comme croyance des compagnons de Jésus au bord du lac de Tibériade, et ce Jésus-là, ce Jésus, est encore un Messie comme l'on dirait en physique, décohérent, c'est-à-dire devenu macrophysique et accessible à tous les effets de l'environnement. Puis, ensuite, il faudrait distinguer la foi en Christ du mont du Golgotha, donc saisi expérimentalement. Ça va être surtout l'effet de ce second stade. Enfin, le troisième stade, la foi dans le Messie universel, qui est peut-être celle des pèlerins d'Emmaüs. D'Emmaüs, qui commence à se répandre dans le monde, mais sous une autre forme que la foi naïve des pêcheurs du bord du lac de Tibériade. Ce serait tout cela le moyen de dépasser le christianisme institutionnel et particulier, sa forme dogmatique et théologique, plus ou moins exclusive évidemment du judaïsme, pour sa forme non chrétienne, pour une messianité pleinement déployée, capable sinon de réintégrer, du moins de valoir pour toute la sphère du monothéisme, tous forcés de signer, comme dirait Kant, un traité de paix universelle, en tant que savant ou que simple, savant ou simple. Nous disons de manière un peu gnostique, je crois que le terme n'existe pas, en tant qu'idem sachant, qui sont les simples titulaires du non-savoir, je dis bien les simples titulaires du non-savoir, c'est-à-dire du savoir simplement probable, de ce qu'ils savent, par superposition, titulaires du non-savoir, sur lequel on reviendra, du non-savoir de ce qu'ils savent par ailleurs, par superposition. Ce non-christianisme universel, Jésus n'en est pas le fondateur. Ni le Messie juif qu'est Jésus, amorçant son tournant chrétien. Et on sait que Jésus est juif, évidemment, cela ne se conteste plus. Autrement dit, le non-christianisme n'est pas universel, ne peut pas être fondé par ce qu'on va appeler un Messie de première génération. C'est le Christ qu'il est en son retour quantique. Plus exactement, ce sont les Messies qui font retour avec lui, les Messies que l'on va appeler de seconde génération, que nous sommes. La crucifixion et la résurrection sont deux vecteurs d'état qui se superposent et remplissent toute l'étendue qu'ils ouvrent d'un christianisme non religieux, non chrétien si vous voulez. Christianisme sans fondateur, sans ce Christ démembré et morcelé dans le discours historique des évangiles, qui en a fait, ce discours, le macromessie aux prétentions fondatrices, que l'on connaît. À sa suite, le christianisme d'église et le judaïsme de tradition ont atteint, l'un par le dogme, l'autre par le rite, l'état décohérent ou fossilisé, pour prendre une autre image, de la dimension macro, à ceci près que le christianisme y a joint parfois un certain retour au paganisme. Bon, ça c'était la conformation, la structure en quelque sorte, du second stade, mais il y a un troisième stade, si vous voulez, qui achève le second et qui se prolonge donc dans une nouvelle figure. C'est ce que j'ai appelé le stade de la sélection, de la détection des messies probables. Alors, nous avons d'un côté la messianité superposée, indéterminée, vectorielle, riche de toutes les potentialités qui vont advenir éventuellement. Mais aussi, nous avons les phénomènes messianiques qui nous ont servi de cause occasionnelle, si je puis dire, mais que nous abandonnons comme le mauvais modèle exotérique offert par les églises et les religions. Bon. Et du côté opposé, du côté terminal, du côté de l'achèvement de la scène, hein, de ce qui s'est passé sur la scène. Nous avons des messies probables et inattendues, qui sont détectées en particulier par quelqu'un qu'on a oublié entre-temps, et que je vais remettre en scène ou en selle, le préparateur de l'expérience. Car on a dit qu'il fallait que l'expérience du Golgotha, en quelque sorte, de la crucifixion et de la résurrection, soit préparée. Nous avons donc oublié le préparateur de l'expérience, c'est-à-dire nous qui observons la scène de la crucifixion et de la résurrection comme la consommation de la mission imprévisible qu'on ne peut pas déterminer en réalité a priori du Christ. Entre les deux, entre l'entrée en scène, en quelque sorte la préparation et la sortie, il y a cette machine que j'ai tenté de commencer à décrire dans le deuxième stade. Il y a cette machine, ou ce dispositif, qui fonctionne comme cela. Ce dispositif fait circuler, aléatoirement, on dira pourquoi, aléatoirement la messianité, et surtout le quantum Christ, dans ces deux aspects, et dans ces deux aspects qui sont multipliables sous la forme de produits, il y a de la vie à la mort, la scène de la crucifixion, de la mort à la vie, la scène de la résurrection. Et ces deux événements sont multipliables d'une certaine manière l'un par l'autre. Il y a non seulement la somme dans la messianité, mais au niveau du processus expérimental de la croix, car la croix c'est une expérience, pas une expérience cruciale, mais je le crains beaucoup, c'est une expérience, il est question de produits, et ces produits sont inverses l'un de l'autre. Mais ce n'est pas du tout pareil de passer de la mort à la vie, pardon, de la vie à la mort, excusez-moi, à la mort, à la vie. Pas du tout pareil, c'est pas commutatif. Ce ne sont pas des produits semblables. Et donc, d'une certaine manière, ça respecte le principe de non-commutativité des produits que l'on peut obtenir à partir de ces deux propriétés du corps du Christ. Car le corps du Christ, dont on a parlé tout à l'heure, il passe par ces deux propriétés. Il est capable de ces deux propriétés. Alors, entre les deux, il y a une machine ou un dispositif qui va faire circuler aléatoirement la messianité et surtout le quantum Christ. Cette circulation va sélectionner les parcours ou les trajectoires, si on peut encore parler de trajectoires, car on ne sait pas ce qui se passe, les trajectoires par un système de disjonction formant des crucifixions multiples, formant une crucifixion continuée, si je puis dire, dont il existe une version exotérique chez les mystiques. Constamment crucifiés, certains constamment crucifiés, et constamment renaissants, peut-être. Et cela, ce processus se termine par une résurrection également continuée, mais pas une résurrection, moi je dirais plutôt par une surrection. Une production de Messie qui ne sont plus que probables, qui sont des potentialités qui étaient virtuelles dans la messianité et qui ne sont plus que probables à la sortie. Ces Messies sortent, mais comme inattendus, comme imprévus, imprévisibles, incalculables. Entre temps et entre lieux, de la mort du Christ à sa résurrection comme nouveau Messie, que se passe-t-il? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, pas plus que nous ne savons ce qui se passe en guise de trajectoire des particules. Rien de cette mutation ne se passe au grand soleil de midi ou au grand soleil du bien platonicien. Mais tout se passe à l'arrivée des ténèbres sur Golgotha, telle une nuit qui se prolonge, qui va se prolonger, par la nuit du tombeau, où a lieu une mutation, un événement extraordinaire qui est la surrection ou la possibilité probable d'un christianisme universel, la mutation des produits mort-vie et vie-mort, qui ne sont donc pas commutatifs, mais qui sont noués, ils sont noués. Qu'est-ce qui se passe dans cette nuit du tombeau? Nous ne le savons pas, et pour moi, je dois dire, c'est le symbole quasiment quantique, de l'ignorance où nous sommes tenus du processus de sélection des messies probables, des phénomènes probables et inattendus, imprévisibles. On parle toujours de nuit mystique, mais je soutiens qu'il y a aussi une nuit mystique dans la quantique. Une nuit quantique où nous ne savons plus rien. Selon une admirable formule d'un anonyme mystique anglais, c'est le nuage d'inconnaissance. Le nuage d'inconnaissance. Ténèbres et lumière solaire sont tout à fait autrement distribués que dans le platonisme. Dans le platonisme, il y a quand même un certain mélange, plutôt qu'intrication, mais c'est difficile à expliquer, un certain mélange des ténèbres, donc de la caverne, et des raies de lumière qui peuvent arriver jusque dans la caverne, des raies de lumière du bien, et qui peuvent donc communiquer aussi avec le foyer qui est derrière les statues qui représentent, qui vont se projeter comme ombre sur la caverne. Il y a un certain mélange des deux. Tandis que ici, ça n'est pas un mélange. C'est un non-savoir, un non-savoir quantique. Et ce non-savoir, c'est la condition pour qu'émergent des messies probables. Et je dirais, c'est la condition pour que se crée un non-christianisme universel fondé sur l'inconnaissance que nous avons des messies. Nous sommes donc piégés, comme certaines particules, on dit qu'elles qu'on piège des électrons, ou certaines particules, dans la caverne non platonicienne, dans une caverne non platonicienne, celle-là, où se joue un drame réel de métamorphose et nullement un jeu d'apparence et d'illusion. Décidément, tout dans ce processus reste caché aux croyants et aux églises. Le Messie reste inappropriable et pas seulement par les sujets philosophiques. C'est la condition pour qu'il y ait justement du futur vécu, de l'invention, et peut-être aussi d'ailleurs des phénomènes qui relèvent d'une sorte de non-christianisme universel. Mais non, non-christianisme, il faut l'entendre selon les valeurs du non. Bon, écoutez, il y a encore un petit problème qui est un énorme problème propre à la mécanique quantique, mais qui rejaillit sur le messianisme et dont je vais parler comme ça. C'est le problème qu'on appelle de la complétude de la mécanique quantique. Cela veut dire, c'est l'objet d'un débat, grand débat entre Bohr et Einstein, qui s'est prolongé, qui a duré des années et des années. Einstein n'étant jamais convaincu par les arguments de Bohr qui se sont révélés être fondés. Bohr et l'école de Copenhague soutenaient que la mécanique quantique, en particulier avec la superposition, n'atteignait pas la réalité en soi des particules. La réalité en soi des particules. Einstein voulait, en tant que réaliste, lutter contre ce concept trop élargi et trop englobant de la superposition, voulait que l'on puisse essayer d'atteindre la réalité en soi, locale, dans le temps, dans l'espace, localisée, enfin bon, des particules, et donc pour nous des messies. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences faites par des physiciens, aussi bien américains, et en particulier, en définitive, par des Français, par Alain Aspect, qui dirigeait une équipe à l'École normale supérieure, bon, qui a essayé de démontrer, semble-t-il, définitivement, en tout cas expérimentalement, donc de manière quasiment définitive, qu'il était impossible de justifier, de répondre aux exigences d'Einstein. Alors pour nous, le problème se pose ainsi. Est-ce que la superposition et ensuite le quantum lui-même traité expérimentalement, parce que le quantum, on a dit, on l'a traité expérimentalement, est-ce que ça permet d'atteindre la réalité en soi des messies ? Alors là, pour nous, il y a une réponse nuancée par rapport au conflit Bohr-Einstein, enfin je crois. Nous ne pouvons plus rester dans une opposition aussi dialectique que celle de Bohr et d'Einstein. Pourquoi ? Parce que, comme pour nous, le quantum messianique, c'est-à-dire le Christ, le corps du Christ, est traité expérimentalement, nécessairement, il intervient de manière beaucoup plus concrète comme schème, comme fonction schématisante du réel et de la réalité. Le corps du Christ est le schème en tant qu'il réunit la superposition, il a un aspect de superposition et il a un aspect de réalité. Parce que le corps du Christ, c'est un phénomène aussi tout à fait physique, indiscutable. Alors, pour nous, ce schématisme permet de réduire le différent Bohr-Einstein sans le supprimer. C'est-à-dire que Einstein a toujours des exigences réalistes, l'en soi des messies, mettons, ou des particules, des exigences réalistes tellement fortes que même Bohr, amélioré par le schématisme, si je puis dire, ou modéré par le schématisme, qui se rapproche de la réalité, même Bohr ne peut pas y répondre. On ne peut pas répondre totalement au désir, pas à l'objection d'Einstein, puisqu'elle a été invalidée, mais au désir d'Einstein d'une réalité en soi, mettons, des messies. Il y aura toujours un petit écart, tout simplement, moi je pense que c'est très simple, ça se résout un peu comme dans la dialectique transcendantale de Kant, ça se résout un peu de la même manière, à savoir que la connaissance la plus poussée dans ces conditions idéalistes, c'est-à-dire dans la superposition ici, ne peut pas atteindre le réel en soi. Elle peut être le schématisme sert à présenter la superposition, si vous voulez, sert à présenter l'empirique à la superposition, mais ne réduit pas complètement l'écart entre les deux. C'est comme si chez Kant, si vous voulez, entre le concept purement intellectuel et le réel en soi, on cherchait une synthèse ou une suture absolue. Eh bien, on n'aura jamais cette suture absolue parce qu'il y a l'intuition, évidemment. Le schème fonctionne entre le concept pur et l'intuition. Bon, c'est-à-dire qu'il y aura toujours cette ultime barrière qui fait que l'en-soi n'est jamais atteint lui-même. L'en-soi est toujours donné sous une forme qui reste assujettie à un reste, à une dernière médiation, en quelque sorte. Ça veut dire que nous avons réduit l'écart entre Bohr et Einstein, mais nous ne l'avons pas supprimé. Plutôt, plus exactement, Einstein est trop excessif, si vous voulez, à mon avis, trop métaphysique, dans son exigence de réalisme. Et dès qu'il y a une science, il n'est pas possible d'être réaliste à ce point. Voilà plutôt la manière dont je résumerai les choses. Si vous avez une science avec des conditions idéales, algébriques, mathématiques, vous ne pouvez pas prétendre atteindre l'en-soi. Enfin, bon, d'autres prétendent peut-être, mais je ne pense pas que ce soit possible. Bon, je vais m'arrêter là parce que voilà.
Merci. Merci.